Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflu, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast qui est désormais intégrée à La Relève, l'agence food cofondée par Margot Décatoire et moi-même en 2020. La Relève, c'est à la fois une agence d'influence food incluant le management de talents et une agence créative qui imagine des projets culinaires, des partenariats, des expériences pour des marques, des lieux ou des événements. Quant à Poil, il met à nu des chefs, des talents food marquants de différents univers, managés en interne ou des coups de cœur, des personnalités qui forment, en tout cas, ce que nous pensons être une certaine relève food au-delà de l'agence. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Ella Aflalo.
Je pense aussi que c'est pour ça que j'adore ce métier. C'est parce que je me dis, punaise, dans 10 ans, je serai faire encore des nouvelles choses, je m'intéresserai à de nouvelles choses. Et puis même, je pense qu'à un moment... Ma cuisine, elle a été mise un peu dans une case, mais parce que je pense qu'on aime bien mettre les gens dans les cases de manière générale. Mais je me suis aussi peut-être enfermée, je pense, dans cette cuisine qu'on a appelée Levantine, etc. Mais parce que c'est mes origines et que j'en suis très fière, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je sens que là, avec l'UMA, ça a aussi pris une autre dimension. On va dire, je me bloque pas à rester, en fait, dans un type de cuisine. Et c'est quand même la beauté de ce métier, de se dire qu'en fait tous les jours, si t'as envie de faire un truc qui te ressemble pas à la base, mais que c'est bien fait, c'est chouette. En fait, ça va plaire tant qu'en fait ça touche les gens. C'est chouette et j'ai l'impression de me laisser plus de liberté aussi dans ma cuisine et ça c'est super plaisant.
Et là, Aflalo s'est fait un nom dans le milieu et pas tant par son passage dans Top Chef que par la force de son travail, de sa cuisine ensuite. Cuisinière sensible, humaine, vibrillonnante, elle s'est créé un style bien à elle qui ne rentre pas dans les cases, mêlant goût méditerranéen de son enfance, technique culinaire traditionnelle et inspiration d'ici et d'ailleurs. Ses fulgurances culinaires sont à déguster au Drum Café, le restaurant de la Fondation Luma à Arles, jusqu'à fin septembre. Avec Ella, nous avons parlé de beignets au fromage, des femmes de sa famille et de son besoin de changement constant. Bonne écoute! Bonjour Ella.
Eh ben bonjour Julie.
Je sors de déjeuner au Drum Café. J'avais déjeuné là l'année dernière et c'est vrai que j'ai trouvé que ça avait pris encore c'était vraiment très bon. Je t'ai envoyé un petit message pendant le repas pour te dire que c'était trop trop bon.
C'est vrai.
Et je le pense vraiment.
Ben merci beaucoup.
J'ai l'impression, ça fait un an que t'es ici et t'as pris tes marques.
Ouais, carrément, j'ai pris mes marques. C'est une très longue résidence que je fais là. Je pense la plus longue que j'ai jamais faite. Et au bout d'un an, j'ai pris mes marques. J'ai aussi, je pense avant tout, pris mes marques avec les équipes. Je pense que oui, maintenant elles savent exactement comment je travaille, comment j'aime travailler. Et puis je pense aussi j'ai pris aussi mes marques dans cette immense cuisine qui est la cuisine de Luma, qui est très très équipée. Et c'est marrant parce que des fois, je me dis que j'arriverai jamais à retravailler dans une cuisine aussi bien équipée que celle-ci. Et ça n'arrive pas à des cuisines comme celle-ci. Donc il faut que.
Je l'ai pas visité.
Ouais, c'est un peu un espèce de vaisseau spatial assez dingue. Et donc je crois que qu'on a fait des beaux progrès tous ensemble en un an. Et moi aussi, je trouve que la carte elle est plus aboutie qu'à mon arrivée.
C'était déjà super bon l'année dernière. Attention, je dis pas ça.
Mais
c'est vrai que là, je trouvais
c'était plus
que...
cuisiné, je pense, peut-être.
Ouais. Enfin, là, je trouve que c'était vraiment, enfin, il y a un niveau, on sent qu'il y a un super bon niveau, en tout cas,
en cuisine. Je suis contente.
Et que c'est super précis.
Bah, vois, j'essaye.
Dans les goûts, dans les assaisonnements, enfin.
Ouais, j'essaye. Après, je fais aussi Aluma, quelque chose que j'ai moins fait dans le passé, notamment quand j'avais le resto Ima. C'est que là, on change moins souvent de carte aussi. Et j'y prends du plaisir. Je pensais que ça allait au contraire un petit peu me frustrer, mais en fait, je crois que je prends aussi du plaisir à faire des choses aussi dans la répétition, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations entre le moment où je vais penser au plat, où on va penser au plat avec l'équipe, la première semaine où on va le faire, où en général ça me plaît pas du tout et je me dis mais pourquoi j'ai fait ça, c'est naze et tout ça. et puis les jours passent et en fait la deuxième semaine c'est un peu plus, ça me convient mieux. Et la troisième semaine, on est vraiment sur quelque chose qui me va bien. Et la quatrième semaine, c'est génial. Et après, ça y est, je me lasse.
Et tu changes.
Et je change. Ouais, en général, je sais changer.
À peu près tous les mois, quoi.
Ouais, à peu près 4-5 semaines, j'essaie de changer. Et en fait, je trouve beaucoup de plaisir à perfectionner et me dire, ah ouais, mais ça, on peut l'améliorer comme ça. Ah, ça, c'est vrai que c'est meilleur quand c'est comme ça. Et c'est aussi très agréable, en fait, de tenir un menu un peu plus longtemps et de le voir en fait se bonifier. Ouais. Voilà.
Toi, tu goûtes beaucoup ta cuisine ?
Énormément. Quand j'étais plus jeune, je goûtais très très peu. Et en fait, plus ça va, enfin plus c'est allé dans le temps, et plus je me suis dit mais t'es dingue, en fait faut goûter, et je goûte tout le temps.
Les éléments séparés ou tu goûtes aussi
Ça nous arrive quand on lance un plat, évidemment on le goûte tous ensemble. Quand je commence à le trouver convenable, on le regoute. Mais tous les jours en fait, avant chaque service, on met nos postes en place. Un plat c'est mis sur un gastro en fait, sur un bac gastro, et tous les jours toute l'équipe goûte tout. Passent devant leur bac et ils goûtent tout.
D'accord.
Pour voir, dans la nuit, il peut s'être passé quelque chose. Peut-être que le jus de bœuf a trop réduit, qu'il est trop salé. On goûte tous les jours, tout le monde goûte tout. Et puis tout le monde donne son avis aussi. Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important pour moi qu'on goûte tout, qu'on donne notre avis. Et des fois, ça va pas. Et après, là, en ce moment, il y a tellement de monde qu'en fait, on refait les choses.
Beaucoup. Enfin, vous faites beaucoup de mise en place.
Voilà, il y a beaucoup de mise en place qui est fait régulièrement, ce qui fait que, on sait qu'il y aura pas, en général, pas trop de soucis. Mais on goûte pour question d'assaisonnement. C'est pas tout le monde qui fait les mêmes choses. Donc, en fonction, je donnais l'exemple du jus de bœuf. En fonction, si c'est moi qui vais le faire ou c'est Lily, une fille qui est en ce moment avec nous en cuisine, qui va le faire, elle va peut-être faire moins colorer les parures ou elle mouillera un peu moins le jus ou un peu moi je le mouillerai plus, je sais pas. Donc en fait, on travaille très peu avec des recettes pesées à part en pâtisserie, je dirais. Donc en fonction de qui est-ce qu'il fait, ça va être différent aussi. Donc c'est vrai qu'on goûte.
C'est important de goûter. Et toi, t'as quel poste en cuisine ?
C'est très tournant, on va dire.
T'es au pass ou non pas?
Pendant le service, je suis au pass. Mais par contre, je suis pas qu'au pass. Je dresse beaucoup. En fait, je travaille en binôme avec une personne qui est au show avec moi. Et elle m'envoie les éléments. Je finis de dresser. Mais très souvent, je me retrouve au poste pizza parce qu'elles ont beaucoup de choses à gérer. Et puis, il y a des desserts qui arrivent. Je dis, c'est bon, je m'occupe des desserts. Chacun un peu, je suis un peu volante, en fait. C'est un poste, je suis un peu volante, on va dire. Je pense pendant le service. Et même en mise en place, j'avoue que j'aime beaucoup le côté boulangerie et, comme tu as pu voir à midi, il y a beaucoup de pâtes et de choses comme ça. Donc le matin, c'est un peu mon plaisir. Moi, je me mets en poste boulangerie avec une des filles, celle qui a envie de venir. Et je dis les filles parce qu'on est très... Enfin, je dis ça à Tony, s'il m'écoute, il va me tuer. Il y a un seul garçon en ce moment. Mais on est 5 filles et un garçon. Donc je dis les filles. Mais je dis toujours, ça va les filles, alors qu'il est au milieu. Le pauvre, il en peut plus. Mais voilà. Mais en général, j'aime bien me mettre au poste boulangerie le matin. C'est un poste que j'apprécie. Et je suis sûre que je finirai par faire quelque chose qui a un rapport avec la boulangerie. Je
sais pas si c'est assez nouveau, ça, cet axe. Enfin, depuis que tu es arrivée au Drôme Café, c'est quelque chose que tu as développé petit à petit.
Oui, les équipements le permettent, en fait. Ouais. Il y a des chambres de pouce, il y a des fours à sol. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivée, qu'ils m'ont fait visiter la tour, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, non, mais c'est incroyable, on va pouvoir s'éclater. Et en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans une boulangerie à Lyon pendant à peu près 6 mois, une super bonne boulangerie qui s'appelle Partisan Boulanger, où, pareil, ils font ça depuis très, très longtemps, en fait. Ils travaillent qu'avec des levains, des vieilles farines, etc. Ils travaillent super bien. Et, j'ai bossé là-bas. Je travaillais dans un bar à vin. J'étais serveuse. Et, c'était assez dingue, le rythme. Je travaillais jusqu'à à peu près 2 heures au bar à vin. Et à 3h30, 4h, j'allais à la boulangerie. Donc, c'était la
douleur.
C'était trop drôle. Et je travaillais en boulangerie jusqu'au matin vers 9-10 heures. Et la journée, je dormais. Je travaillais un peu comme un hibou. C'était marrant. Et j'ai travaillé 6 mois chez Bastien, j'avais adoré, et ça m'est resté un petit peu à la boulangerie. Et puis moi j'adore, je suis super super friande de pâtes, tout ce qui est levé, viennoiserie, tout. Moi je suis fan absolue, si je pouvais me nourrir que de pain, je le ferais, je pense. Et voilà, et là c'est vrai qu'à l'UMA, comme on est bien équipé, et ben j'ai...
T'as développé cet axe-là, ouais.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a les beignets.
Il y a les beignets.
Il y a la pâte à beignets.
Ouais. Il y a les pizzettes.
Les pizzettes. L'année dernière, tu faisais aussi, je sais pas si j'ai bien prononcé, cachapuri.
Ouais, la cachapuri. En fait, c'est la même pâte.
Oui, c'est un peu comme une pizzette.
Ouais, c'est un peu une pizzette. Et en fait, aussi, je me suis rendu compte entre temps que c'est vrai que le format était pas non plus hyper propice, parce que même s'il y a des grandes tables ici, la plupart des tables, c'est des tables de 2, 3, 4. Et en fait, comme c'était très copieux, ça freinait un peu. Donc, on l'a réduit en pizzette. Et c'est, je pense que ça part,
c'est
mieux,
cool,
en fait.
Ouais.
Et les gens sont contents de ce format. Mais ouais, c'était à peu près, c'était la même pâte, en réalité. On a un peu amélioré, parce que maintenant, on l'a fait au levain. Et quand on est arrivé, on n'y mettait que de la levure. Et avec Doris, qui s'occupe de toute la boulangerie, pour le drum, on a mis en place, on a amélioré aussi les recettes. Pareil, le pain challah qu'on fait nous-mêmes, le pain tressé.
Oh, qui arrive chaud sur la table.
Qui arrive chaud, ouais. Et ça, pareil, quand je suis arrivée, moi, c'est une recette de famille où, il n'y a pas de levain dans ma famille, autant te dire qu'il y a la levure, c'est tout. Et on a essayé de la faire progresser un peu, et maintenant, on y met que du levain.
Que du levain?
Ouais.
Ah ouais. Trop bon.
Ouais.
En tout cas.
Voilà.
T'es installée dans la région depuis 4 ans à peu près maintenant, 4-5 ans?
Ouais, à Marseille, je suis arrivée, c'était 2018, je dirais, ouais, je crois que c'est ça.
T'avais senti que ça allait devenir un fief gastronomique?
Quand je suis arrivée, c'est vrai, à Marseille, il commençait un petit peu à se passer quelque chose, mais c'était vraiment le début. Moi, je suis arrivée, j'ai fait la résidence, je sais pas si tu te souviens, chez Jogging, chez Olivier et Charlotte, j'ai commencé. Et puis même les résidences, on n'en parlait pas trop à ce moment-là, et je trouvais ça super novateur qu'à Marseille, on puisse accueillir des chefs en résidence. Après, je pense que ça a popé très vite quand même à Marseille, c'est trop bien. Déjà, c'est trop bien parce qu'il y a de plus en plus d'endroits pour aller manger. Et je sais pas si je l'avais senti, mais en tout cas, je m'y suis sentie très vite bien. Et c'est super, super agréable de voir à quel point maintenant on peut bien manger aussi à Marseille, et de manière très variée, en fait. C'est vrai. Donc ça, c'est chouette.
Là, tu vas rester, t'es partie pour rester dans la région?
Je sais pas. C'est la bonne question. Ouais. En fait, le problème, c'est que j'ai trop d'idées. Enfin, j'ai trop d'idées. Non, c'est pas que j'ai trop d'idées. J'ai trop d'envie, en fait. Ah. Ouais, j'ai envie de faire plein de choses différentes. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce format un petit peu de chef volant me convient. Et donc, je sais pas ce que je vais faire après. Des fois, mais je dis des choses improbables. Des fois, je me dis, ouais, je vais retourner à Paris. Après, je me dis, non, en fait, pas du tout. Après, je me dis, mais Marseille, c'est cool quand même. Et après, je me dis, ouais, mais Marseille, depuis que j'ai un bébé, c'est moins évident. Et après, je me dis, Pays Basque, c'est cool, non, quand même. C'est vraiment, et des fois, c'est une boulangerie. Des fois, je me dis, oh non, un restaurant vraiment classique, j'ai plus envie non plus. Je suis super indécise, on va dire. J'ai envie de faire plein de choses.
Tu m'avais parlé du Mexique aussi.
Ouais, mais avant l'image, j'étais au Mexique et je me dis, Mexique, pourquoi pas y retourner?
J'ai
adoré, et à chaque fois que j'y suis, je m'y sens super bien aussi. Ouais. Mais je pense que j'ai aussi besoin de ma famille. Donc, pourquoi pas le Mexique, mais sur un temps donné.
Ouais, voilà. Temps court, ouais.
Donc, non, après les projets après l'humain, je pense que c'est ta dernière question, mais on est au milieu.
Ouais, voilà, on est au début.
Mais... au début et c'est vrai que j'ai plein d'envies, mais pour l'instant, je sais pas sur quoi me fixer. Je pense que je vais prendre un peu des vacances.
Après un an de résidence, un an et quelques de résidence,
ouais.
Des vacances bien méritées.
Quoi. Ouais, ça va faire du bien de prendre des vacances, je pense.
Ouais, parce que ici, c'est un format qui est pas si saisonnier. Vous êtes assez peu fermé en fait cet hiver.
Ça ferme jamais. Ouais, c'est la fondation est tout le temps ouverte. En hiver, c'est juste la tour est fermée le mardi. Mais c'était une journée où on pouvait en profiter pour faire de la mise en place et des essais, etc. Vu que c'est plus calme en hiver. Et non, à partir du mois de juin, quand la saison commence, c'est ouvert 7/7. Ouais. Donc il n'y a jamais eu vraiment trop de pause quoi.
Pour revenir à tes expériences précédentes comment t'es arrivée dans la cuisine, comment t'as eu envie de faire de la cuisine, t'as fait l'Institut Paul Bocuse à Lyon.
Ouais, c'est ça. J'ai fait l'Institut Paul Bocuse après avoir fait un bac bac général quoi à Nice où je suis née, où j'ai grandi. Et la cuisine, comment elle est arrivée? Je pense qu'elle est arrivée parce que j'ai toujours beaucoup aimé manger. Je pense que ça, c'est le truc numéro un. Et le truc numéro deux, je pense que c'est aussi très, très familial. En fait, on est une famille assez nombreuse. On se réunit beaucoup, beaucoup autour de la table. Et je pense que c'est venu de là, des grandes tablées, de voir les femmes de ma famille s'affairer un petit peu en cuisine. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai toujours aussi aimé être entourée de mes cousins, mes cousines. Et c'était lors de ces repas, en fait, qu'on se retrouvait. Et je pense que c'est venu de là. Et après, je pense que...
À l'Institut Paul Bocuse, t'as fait de la cuisine ou du service ou
de
les
la
deux
cuisine.
De la cuisine.
95% ouais, de la cuisine. Non, il y a une filière service, en gros, okay. Plutôt hôtellerie, et une filière cuisine. Moi, je suis rentrée dans la filière cuisine. Et oui, j'ai commencé à apprendre là-bas. Après, je pense que la vraie formation, elle se fait dans les restos et quand t'es sortie de l'école, parce que on apprend tellement de choses en fait en très peu de temps. Moi, je me dis en fait quand je suis sortie de l'école, je savais rien faire en fait. Je pense.
Toi, t'apprends les bases, mais tu les pratiques pas.
Il faut les pratiquer. Ouais,
c'est
voilà.
Un métier qui demande aussi quand même beaucoup de pratique.
Ouais, carrément.
Et c'est sûr que il faut aussi des années, des années.
Et oui, carrément. Même toi, tu vois, tu me dis en un an, tu sens que ça a progressé. Moi, je sens tous les jours que j'apprends des choses en fait. Donc, je me dis avec le recul, quand je suis sortie de l'école, j'avais l'impression d'être une superstar, mais en fait, non, pas du tout. Enfin. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup évolué et tous les jours, j'apprends. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'adore ce métier. C'est parce que je me dis, punaise, dans 10 ans, je serai faire encore des nouvelles choses. Je m'intéresserai à de nouvelles choses. Et puis même, je pense qu'à un moment, ma cuisine, elle a été mise un peu dans une case. Mais parce que je pense qu'on aime bien mettre les gens dans les cases de manière générale. Et je pense que ma cuisine, mais je me suis aussi peut-être enfermée. Je pense dans cette cuisine qu'on a appelée Levantine, etc. Mais parce que c'est mes origines et que j'en suis très fière, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je sens que là, avec l'UMA, ça a aussi pris une autre dimension. Je me bloque pas à rester en fait dans un type de cuisine. Et c'est quand même la beauté de ce métier de se dire qu'en fait tous les jours, si t'as envie de faire un truc, qui te ressemble pas à la base, mais c'est bien fait, c'est chouette, en fait, ça va plaire. Tant qu'en fait, ça touche les gens, c'est chouette, et j'ai l'impression de me laisser plus de liberté aussi dans ma cuisine, et ça, c'est super plaisant. Voilà.
T'as tout de suite aimé quand t'as été, confronté, enfin, tu vois, quand t'as commencé, quoi, quand t'as.
Ouais, j'ai tout de suite aimé, il y a des choses que j'ai moins aimées, je pense, mais en tout cas, faire quelque chose de mes mains, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est sûr, et même si un jour je viens à plus faire de cuisine, je pense que je resterai dans quelque chose de très manuel, parce que les journées passent vite quand on fait quelque chose avec ses mains, et que c'est super agréable en fait d'être dans la création et de travailler avec ses mains, c'est très agréable. Donc ça, j'ai aimé tout de suite, j'ai beaucoup aimé quoi, d'être debout, de créer,
d'être dans le physique.
Ouais, d'être dans le physique, ça c'est quelque chose qui m'a plu, et je pense que j'aurais du mal à faire des métiers où on est plus assis, qui sont
aujourd'hui
plus...
tu ressens encore, enfin tu cuisines quoi.
Ah bah je cuisine enfin, tous les jours.
Tous les jours.
Ah bah je cuisine, j'arrive ici à 7h. La... Ah bah je cuisine tous les jours. Ouais. Et j'aurais beaucoup de mal à me dire je fais des consultings, enfin ça m'est déjà arrivé d'en faire et j'accepte d'en faire aussi, mais sachant qu'à côté j'ai mon côté cuisine où je cuisine vraiment quoi, enfin je suis dans mes casseroles avec mes équipes tous les jours et ça me fait vibrer vraiment aussi quoi. Ça amène beaucoup de fatigue, c'est vrai. C'est vrai que je me sens fatiguée globalement, mais par contre, c'est mon bonheur aussi, quoi. C'est mon bonheur d'être dans mes cuisines, devant mes fourneaux, à essayer des choses, machin. C'est un gros kiff, quoi. Et ça, c'est vrai que je pourrais pas l'enlever. En tout cas, pas maintenant. Ça, je pourrais pas l'enlever.
T'as travaillé où, en fait? J'ai assez... Enfin, quand t'es... Voilà, après...
T'as assez peu d'infos, parce que ouais. J'ai travaillé dans très peu d'endroits.
Ouais, c'était un peu un mystère.
Ouais, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est un mystère, parce que...
Ton parcours, bon, jusqu'à Yima, un peu, tu vois, où tu t'es...
Ouais, enfin, mais voilà, parce que, comme je disais tout à l'heure, ouais. J'ai envie de faire 12 choses en même temps, et que j'ai du mal, je pense, à me fixer quelque part, en fait. Et c'est comme ça depuis que je suis jeune. Et j'ai travaillé dans très peu d'endroits, en fait. Après l'Institut Paul Bocuse, j'ai travaillé à Paris, mais de mettre des brives quoi. Je suis restée quelques semaines chez Septime, quelques semaines chez David Toutain, et en fait
ça te plaisait pas?
Bah c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que en fait très vite en fait j'ai eu envie de faire ce que
l'indépendance,
ouais,
de liberté,
ouais, la liberté. Et puis en fait, je crois que j'avais un peu de frustration. C'est sûr, en fait, on dit qu'il faut apprendre chez les autres, etc. Mais, et peut-être que mon niveau serait meilleur. Enfin, probablement, mon niveau serait meilleur que ce qu'il est maintenant si j'avais persévéré et que j'étais restée chez les autres. Mais en fait, j'avais de la frustration de reproduire des choses qui, des fois, me touchaient pas tant. Voilà. Et c'est vrai, en fait, la liberté de me dire, bon, ok, tu vas essayer tes trucs. Ben, oui, je me suis plantée à des moments. Oui, des moments, c'était pas top. Et en fait, ça m'a mis plus aussi peut-être de temps à arriver où là, j'arrive à en arriver avec ma cuisine et avec ce que j'arrive à faire. Peut-être que si j'étais restée plus longtemps dans des belles maisons à Paris où j'ai commencé, ben, j'aurais fait de meilleures choses. Je sais pas, en fait, on sait pas ce qui se serait passé. Mais en tout cas, c'est sûr que...
T'es retombée sur tes pieds, on va dire.
Ouais, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur dans le fait de m'écouter, de faire ce que j'avais envie de faire et de pas forcément rester trop longtemps chez les autres. Donc, c'est pour ça que t'as pas trop d'infos. Mais ouais, j'ai beaucoup travaillé pour moi, en fait.
Et il y a eu Top Chef. T'étais assez jeune, hein?
J'étais jeune, beaucoup ouais. Trop jeune, je pense. Ouais, j'ai un passage express chez Top Chef, ouais. Mais je suis partie à la première émission.
Ok. Comme ouais. Jean-Marco, tu vois, vous avez.
Non, Jean-Marco, il est resté plus, non?
Non,
il a intégré une brigade, je crois.
Non, je crois qu'il a aussi été éliminé à la première, mais tu vois, finalement, ah, c'est ouais. Pas forcément. Ouais. Une mauvaise chose parce que on se souvient de vous deux.
Bah, écoute, alors merci. Mais non, c'est vrai que c'était à refaire. Bah, je l'aurais fait plus maintenant. Et peut-être que maintenant, je serais partie à la première émission aussi, en fait. Mais non, je l'ai fait parce que j'étais très jeune. Et
ils sont venus te chercher.
Ils sont venus, ouais, ouais. Ils sont venus me chercher. Et puis je me suis dit, waouh, l'occasion se présentera pas deux fois, fonce. Et puis les castings sont quand même assez longs pour participer à Top Chef. Et puis arriver au bout, j'étais super contente de participer. Après, évidemment, il y a eu la déception d'après de partir à la première émission. mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au final, j'ai travaillé deux fois plus aussi et je me suis donné deux fois plus les moyens et
à tel point que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que t'as fait Top Chef,
ouais,
tu vois, aujourd'hui je pense que tu t'es fait un nom et que
mais je le dis pas forcément
seul,
aussi,
tu vois,
quoi.
T'es fait un nom qui résonne pour lui tout seul sans dire elle a de Top Chef, enfin
oui, bien
tu
que
vois.
Quand même quand on dit qu'on l'a fait, ça accrédite, tu me rends compte que ça accrédite ouais. Beaucoup aussi aux yeux des gens, mais ce qui est normal parce que c'est quand même la grande écoute et que il y a des super cuisiniers quoi qui sont ouais. Aussi recrutés pour faire ça.
Mais c'est vrai que je me demandais si c'était volontaire aussi toi un peu d'effacer ce. Parce que je trouve que c'est assez, tu vois, tu le revendiques pas trop. C'est
bah, je le revendique pas trop parce que je pense qu'aussi je suis restée une émission aussi, donc ouais. En vrai j'ai pas. Ce serait pour moi un petit peu étrange de dire ah ouais j'ai fait Top Chef machin alors que tu restais une émission. Et puis je pense vraiment que ça n'a pas eu tant d'impact que ça sur ce que j'ai fait après, parce que je suis restée très très peu. Ouais, sur le coup, pendant une semaine, j'ai eu des Twitter, des trucs comme ça, c'était rigolo. Mais en fait, pas assez pour que on me contacte pour faire des choses, quoi, en fait. Donc c'est vrai que j'en parle pas trop. Après, c'était un super souvenir et je suis super contente et je le regrette pas du tout. Mais c'est vrai que j'en parle pas trop.
C'est à la sortie de Top Chef, t'es venue à Marseille, donc t'as fait la résidence jogging et ensuite t'as lancé Yima.
Ouais.
C'était 2019, hein,
c'est
je crois.
C'est ça. Ouais. L'ouverture c'était en mars 2019. Non. C'était mars 2019, c'est ça.
C'était un super projet où donc étaient impliqués tu raconteras mieux que moi.
Ben ouais, c'était un beau projet. En fait, j'étais chef et co-associé, on va dire, de Yima avec Georges Mohamed Chérif, qui a la boîte de pub Buzzman, exactement. Et en fait, il était venu manger chez Jogging, on s'est rencontrés comme ça, le courant était bien passé. Et puis, il avait déjà en fait ce local, rue d'Aubagne. Et en fait, moi, c'était vraiment la rue que je spotais en fait pour ouvrir quelque chose. Et quand il m'a ouvert le local, bon, ça ressemblait à rien parce que c'était une espèce de burger, Tex-Mex, couscous, pizza.
J'imagine très bien.
Ouais, c'était magnifique. C'était improbable. Et je suis rentrée et j'ai adoré le lieu tout de suite en fait. Et pour moi, c'était une opportunité dingue en fait que d'ouvrir ce resto dans cette rue-là, etc. Donc on a ouvert ensemble. Et puis on a voulu mettre en avant le travail de femmes, et ça m'a beaucoup plu en fait, de me dire que j'allais être entourée que de femmes dans cette cuisine-là, dans ce quartier. Et puis ça collait à l'époque à ce que j'avais envie de faire. Et donc ce resto a été ouvert au final pas très longtemps, parce qu'il y a le Covid qui est arrivé après, qui a aussi, je pense, pour beaucoup de jeunes chefs et de cuisiniers, a remis un peu les pendules à l'heure sur
le rythme.
Pardon. On a coupé. C'était la première fois, je pense, en 10 ans de cuisine que je coupais. Et je me suis posé aussi des questions en me disant, mais est-ce que vraiment j'ai envie 6 jours par semaine d'ouvrir une grille, de la fermer, d'être un peu excessive aussi dans mon comportement, parce que il y a beaucoup de pressions qui sont rattachées avec le fait d'avoir un resto. Et je crois qu'en fait, pendant ce confinement, je me suis dit, est-ce que t'es toujours en phase avec toi-même, avec qui tu es, avec qui tu viens, d'où tu viens. Et je crois que je l'étais plus en fait. Et c'est pour ça que ça a découlé la fermeture de Yima. Et puis aussi, je suis arrivée à un moment où un très fort aussi désir de maternité, qui était aussi peut-être pas compatible avec le rythme que j'avais chez Yima, et en tout cas mes engagements vis-à-vis de Georges et de mes autres associés. Et donc c'est vrai que voilà, j'ai préféré arrêter. Je pense pour ma santé morale et aussi par rapport vis-à-vis des équipes, quoi, parce que je pense que je serais pas revenue avec la même motivation. Et puis ouais, ce rythme un peu frénétique, et comme je te disais au début, je suis pas sûre de vouloir réouvrir un resto, ou du moins un truc très classique avec des heures de service, une équipe.
C'était dur, ça.
Ouais, c'était dur, et puis c'est enfermant un peu, tu vois, c'est enfermant. J'avais l'impression d'être aussi, et peut-être ma cuisine, bien que les gens étaient ravis et qu'on a eu des retours.
J'étais venue manger.
Ah, cool.
Ouais, c'était super bon.
C'était bien, tu vois, on avait franchement des bons retours. Le resto, il était tous les jours.
J'avais mangé les moules, tu vois, je m'en souviens.
Ah oui, les moules à Larissa. Ouais. Ah ouais, c'est
trop bon.
Ouais, c'était cool. Mais c'était généreux, c'était bien, tu vois. Mais moi, j'adorais ce qu'on faisait. Et puis j'avais une belle entente aussi.
C'était... Enfin, c'est vrai que...
Et la première mixité, ouais, c'était trop sympa. Et en même temps, c'était super intense. C'était super intense parce que là, c'était même plus une cuisine ouverte. C'était un comptoir. Les gens étaient avec nous dans la cuisine, en fait. C'était fou quand même quand on y repense. Et maintenant, je suis dans une cuisine fermée. Je me dis, mais comment j'ai fait? Je sais pas si je pourrais revenir à un truc aussi.
Ah ouais, parce que tu vois, c'est aussi vachement... Enfin, en tout cas, ça a été beaucoup mis en avant, cuisine ouverte.
Ouais, carrément.
De montrer, mais c'est pas évident au final.
C'est pas évident. En vrai, c'est pas évident parce que des fois, c'est aussi très agréable d'être avec son équipe et de pouvoir se dire les choses entre nous, en fait. Et c'est vrai, des fois, j'avais l'impression un peu d'être comme dans une pièce de théâtre, tu vois. Et on était un peu tous les acteurs de cette pièce de théâtre. Ça a été un peu... frustrant pour moi. En fait, parce que des fois, même moi, je me dis, mais j'étais peut-être pas vraie, tu sais, dans cette représentation. Là, tu vois, on peut dire des conneries en bas, on peut, quand ça va pas, on peut aussi se dire les choses, on peut se dire les choses avec des vraies émotions, tu vois. Des fois, on était un peu dans une représentation qui, pour moi, était peut-être un peu froide et qui était à l'inverse de ce qu'on avait envie de faire à la base, tu vois.
Donc, et dur à porter. Enfin, ouais. Au final, assez dur à...
Ouais, c'était une pression qui était dure parce que on avait les gens qui nous voyaient travailler, donc déjà tu te dois d'être nickel tout le temps.
À tous les niveaux.
Ouais, à tous les niveaux. Ah. Et puis, beaucoup de monde, beaucoup de gens au comptoir. Et puis, on a eu des phases très très drôles où il y avait des gens qui tapaient dans les boîtes, mais c'était à mourir de rire. On a eu ça une fois, mais moi, avec le recul, c'était un endroit, c'était génial quand ouais. on y repense. Et je serais trop contente de raconter ça à ma fille. Dire, regarde, j'ai fait ça. Et on était que des nanas. Il y avait Samira qui avait 50 balais, qui avait jamais cuisiné de sa vie, qui était là avec nous, qui rapportait un truc génial. Tu vois, qui nous faisait des cornes de gazelle, qui les ramenait. Enfin, mais c'était aussi
une aventure.
C'était une aventure. Ouais. En fait. C'était une trop belle aventure. Mais je pense que il fallait que aussi pour moi, elle prenne fin. Parce que c'était énergivore, quoi. C'était...
Et le rythme ici, c'est ouvert que, entre guillemets, ouais. le midi.
C'est ouvert que
te
le midi.
Te convient mieux. Enfin,
ouais, mais même chez Ima, c'était ouvert que le midi. Mais c'était mon resto.
Ah oui.
C'était mon resto, ouais. C'est pas pareil, quoi. C'est vrai que ici, quand je sors d'ici, ben, j'arrive à penser à autre chose. Là, c'est vrai que je sortais de chez Ima, ça s'arrêtait jamais, en fait. Ça s'arrêtait jamais, mais, parce que c'était mon resto aussi. Et je pense
c'était
que.
C'était
le premier, enfin... j'étais jeune. Ouais. Et puis aussi, les gens t'attendent un peu au tournant quand tu ouvres quelque chose aussi.
C'était ton
tu
premier.
Vois.
Ouais, ton premier restaurant. Donc,
c'est oui,
vrai, comme tu dis,
il y avait des attentes.
Aussi,
il y avait des attentes et moi je me suis mis aussi une pression de dingue, je pense, tu vois. Là je me mets moins de pression aussi, tu vois, et au final c'est plus sain, je pense. C'est plus sain, je me plais plus à avoir moins de pression, je crois. Bien que il y en a quand même hein, parce que tous les jours on a du monde et que les gens ont des attentes et que puis même moi j'ai le souci de bien faire et de m'améliorer, etc. Mais c'est pas la même chose en fait. Quand c'est ton affaire ou pas, je crois que c'est pas la même chose.
Ton identité culinaire très inspirée de la Méditerranée, ça, c'est, t'en parlais tout à l'heure, ça a été toujours là. Mm. Ça vient de ta famille, des femmes de ta famille aussi.
Ouais, ça vient de ma famille, je pense, oui, très fortement, ça vient des femmes de ma famille, parce qu'il y a que les femmes dans ma famille qui cuisinent. Ça vient de mes grands-mères, ça vient de ma grand-mère seule, de ma grand-mère Berthe aussi, qui était une très bonne cuisinière aussi. Enfin, qu'il est toujours, qui cuisine un peu moins, mais je suis sûre qu'elle l'est toujours. Je la vois moins, mais je suis sûre qu'elle est toujours. Ouais, c'est un héritage familial, je pense, la cuisine pour moi. Ma mère aussi cuisinait très bien, mais maintenant, elle a la flemme, elle cuisine moins. Si tu m'entends, maman, il faut t'y remettre parce que c'est trop bon. Mais ouais, c'est un héritage familial pour moi, la cuisine. Non, je te dis, c'était tous les repas, et puis on ne sait pas faire un peu, en fait. C'est pas un repas. Quand tu viens, il y a 5 trucs différents à manger. Tu sais plus où donner de la tête, quoi. Donc ouais, c'est très familial.
Et naturellement, c'est la cuisine que tu as eu envie de faire?
Ben, c'est la cuisine que j'ai eu envie de faire parce que c'est la cuisine que j'ai beaucoup mangée. Et je crois plus ça avance, plus je m'en détache. Après, ça, c'est là, hein, c'est dans mon sang aussi, donc ça partira jamais. C'est sûr que je vais pas me mettre à faire de la cuisine de Noma. Enfin, c'est voilà, ça viendra pas parce que c'est pas si je viens pas de là, donc je le ferai pas. Mais après, c'est une cuisine, ma cuisine, elle évolue, mais elle le garde toujours quand même.
Un peu ce fil conducteur.
Ouais, ouais. Ce fil conducteur là, voilà quoi.
Ouais, c'est une cuisine qui est très, comme tu disais, il y a ce fil conducteur ensoleillé et en même temps avec plein d'inspirations différentes. Enfin, c'est pas une cuisine qui est identifiée, tu vois, je sais pas si on peut dire d'un pays, ou c'est une cuisine aussi qui est très ouverte sur le monde contemporain, avec des choses, j'imagine que t'as aussi vu quand t'es allé au Mexique ou enfin voilà, plein d'inspiration, le baofri
ouais.
qu'on a eu ce midi par exemple, voilà, c'est très métissé.
Ouais, c'est très métissé. Je pense que c'est vrai que je me suis pas arrêtée vraiment à la cuisine du Levant qui me touchait. Il y a plein d'autres choses qui me touchent et plein d'autres choses que j'adore manger. Et je pense que j'ai beaucoup de curiosité aussi, qui fait que je vais essayer des choses, tu vois, qui des fois, on pourrait pas dire sur le papier, ah bah oui, tu vas faire ça, mais l'excitation d'essayer, là j'essaie de mettre un udon en ce moment en place, tu vois, rien à voir en réalité avec ma cuisine, mais il y a le travail de la pâte que j'adore, et je pense j'essaie un petit peu de mélanger toutes les choses que j'aime manger, que j'aime faire, et les choses aussi que j'ai envie d'apprendre à faire. Donc ouais, c'est un mélange. Je m'inspire aussi beaucoup de mes voyages. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'énormément voyager. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant et puis même plus âgée. J'ai juste avant de arriver à Marseille, je suis partie pendant presque un an en Amérique latine. Je me suis aussi beaucoup inspirée de tout ça. C'est vrai que j'adore le Mexique. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, quoi. La cuisine mexicaine, les cultures mexicaines, elles me passionnent aussi. Donc, ouais, je pense que c'est un mélange de mes voyages, d'où je viens, de la curiosité que j'ai. Et voilà. C'est vrai que je m'arrête pas, je me suis pas arrêtée à aussi d'où je viens. Je pense qu'il y a plein d'autres choses que j'aime et j'essaie de mélanger tout ça, quoi. Et
construire ta propre identité culinaire, ouais. Au final.
Ouais.
Est-ce que tu penses l'avoir trouvé?
Je pense pas. Je pense que je mettrai une vie si je fais ça, si je continue à cuisiner, je mettrai une vie à trouver mon identité. En tout cas, je sais de plus en plus ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas faire, c'est déjà un bon départ.
Qu'est-ce que t'aimes pas faire?
Ouais, ce que j'aime pas faire, c'est dur de dire à chaud ce que j'aime pas faire, mais enfin, ce que j'aime pas faire, c'est un peu tout blanc tout noir de dire ce que j'aime pas faire, mais en tout cas, c'est vrai que des choses, par exemple, que j'aimais pas avant, et ben, je me mets à les aimer. Tu vois, par exemple, les abats, c'était pas mon kiff, tu vois, c'était pas mon kiff. Et là, plus ça va, plus j'essaye des choses, tu vois. En fait, ce que j'aime pas faire, je crois, c'est ce que j'ai déjà fait. C'est ce que j'ai déjà fait, tu vois. Ce que je maîtrise vraiment, que je sais, tu vois, ce qui m'excite, et je suis contente le matin de me lever en me disant, vas-y, je vais essayer un truc que j'ai jamais fait. Ouais. Et je lis des choses, je me renseigne. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Par exemple, avant de venir ici, j'avais jamais fait des riz de veau, j'avais jamais fait de langue de bœuf. Là, en ce moment, il y a une pizzette à la langue de bœuf que je fais comme un pastrami, tu vois. C'est un truc que j'adore en ce moment sur la carte. Mais ouais, est-ce que je pense que je suis quelqu'un qui aime pas m'ennuyer, en fait, et qui m'ennuie très vite, qui me lasse très vite. Et je crois le fait de faire des choses que j'ai déjà fait ou que j'ai trop fait. Eh ben, j'aime pas ça.
On sent que t'as l'excitation de, ouais, d'essayer des choses. Enfin, c'est marrant parce que, pour revenir au bas au free, juste dans tes posts, on sentait que t'étais un peu comme une petite fille qui est en train de, tu vois.
Ouais, c'est ça.
En train de faire ses essais, qui est trop contente.
Ah oui, je suis trop contente.
En train de trouver un truc. Et...
Ah oui, c'est ça. Je suis trop contente. mais je suis vraiment comme, des fois, c'est enfantin, quoi. Je suis excitée. Des fois, je suis là, chez moi, je rentre. J'écris des trucs qui n'ont pas de sens. La plupart du temps, mes notes, ça n'a pas de sens. Il y a réglé, facture, URSAF au milieu de, qu'est-ce que j'ai regardé tout à l'heure? Je regardais mes notes. Je dis, mais là, il faut t'organiser, là, ça va pas. Alors que je suis super organisée dans ma cuisine. Mes notes ne veulent rien dire.
Mais
je m'y retrouve. Et ouais, je suis là, je suis trop contente. On va faire un essai d'un espèce de Bloody Mary de pastèque sur des huîtres de Camargue. Et je suis trop excitée, tu vois. J'ai dit à Arnaud, le barman, qui est trop fort à Luma, qui fait des super cocktails, trop équilibré. Et on va mettre ça en place tous les deux. Il va m'aider à gérer parce que je veux mettre du mezcal à la place de la vodka, en fait, pour faire le Bloody Mary. Je pense que ça va être assez cool. Et là, ça fait une semaine, je fais que de penser à ça. Et je suis, c'est vrai que je suis un peu comme une gamine, quoi. Ça m'excite, en fait, d'essayer des choses que j'ai jamais fait, et des choses un peu improbables ou quoi. Je suis trop contente, en fait. Ouais, je suis trop contente.
Tu crées facilement?
Je crée facilement, je crée par phase, en fait. Il y a des moments où j'ai plein d'idées. Et des moments où c'est très dur et je suis en mode remise en question, en mode je suis trop nulle, je vais faire autre chose, faut que j'arrête. Ouais, c'est vraiment par phase. C'est par saison aussi. Des fois, ouais, arrivé la fin de l'hiver, tu t'es mangé des courges et des trucs, machin. Tu dis, oh là là, j'ai plus d'idées. Et puis, c'est le renouveau. Le printemps arrive et là, c'est génial. Tu dis, waouh, je suis super créative quand même. Donc, en fait, c'est par phase. Là, l'été, j'aime bien. Il était j'aime bien en général. Après, je sais que fin septembre, j'en aurai marre. C'est des phases.
Ça
en
tombe
fait,
bien, de... l'automne arrivera.
Ouais, et l'automne arrivera et je serai contente.
Ce sera une nouvelle saison.
Ouais, je sais pas si je suis. C'est vraiment par phase. Des fois, c'est très facile de créer et en une heure et demie ou deux heures de temps le soir, je vais écrire six trucs et les six trucs, ça va fonctionner. Des fois, ça va me mettre quatre jours et ça va être nul et on retiendra rien de ce que j'ai écrit et ça sera nul, tu vois. Donc, c'est par phase, je dirais.
J'ai un petit questionnaire au milieu qui est différent. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la relève?
La relève, je pense que c'est les personnes qui feront demain, je pense, tout simplement. Je pense que c'est ceux qui vont faire demain. Mais oui, je pense que c'est ça.
Ton nouveau kiff culinaire?
En ce moment, je sais pas si c'est nouveau, mais je mets de la sauce sriracha partout. Voilà. Je mange des sriracha à tous les étages, quoi. Viande, poisson, des pâtes. Voilà. Comme un enfant qui met du ketchup partout, je mets de la sauce sriracha partout en ce moment. Voilà.
Ton livre de recettes secret?
Mon livre de recettes secret, je dirais, c'est pas vraiment un secret, mais je l'utilise beaucoup. C'est le manuel, le livre de référence de la cuisine française.
Je vois très bien.
Voilà. C'est celui-là, je l'ai toujours dans la cuisine. C'est pas vraiment un secret, mais c'est vrai que pour des bases, et j'essaie de revenir un peu aussi, en ce moment dans ma cuisine à des trucs aussi plus classiques, tu vois, des jus vraiment faits dans la règle de l'art, des fumets faits dans les règles de l'art, etc. Et c'est vrai que c'est un super bon guide. C'est un super bon guide. Après, j'essaie de pimper un peu tout ça. Mais je crois, c'est vrai que j'ai une cuisine quand même qui est fondée sur des bases assez classiques de la cuisine française. Enfin, en tout cas, j'essaie de revenir à ça parce que ça me fait kiffer. C'est vraiment en ce moment, voilà, tu me disais ton kiff. C'est vrai que en ce moment, j'aime bien les trucs un peu classico que j'essaie un petit peu de re-switcher, tu vois. Mais ouais, je dirais la cuisine de référence, très pratique.
Une technique de cuisine découverte récemment?
Technique de cuisine découverte récemment. En tout cas que j'utilise récemment beaucoup, je fais tout fumer. C'est trop drôle. On est pas très loin de la croix. On a du super bon foin de la croix qui est un foin très reconnu dans la région. Et c'est vrai qu'en ce moment, je m'amuse à faire des feux en cuisine, à faire fumer des choses plus ou moins longtemps.
Ça avait pas l'alarme incendie, ça va?
Je désactive, c'est trop drôle. À chaque fois, il faut appeler les pompiers pour désactiver. Je les saoule. S'il vous plaît, on peut désactiver, je vais faire fumer des produits. Alors, tous les jours, je les appelle en ce moment, c'est très drôle. Donc, ouais, non, je dirais, de gérer le temps de fumage, l'intensité, etc. J'aime bien m'amuser à fumer en ce moment des choses.
Le chef ou la chef montante à suivre?
Bon, il est déjà très suivi. Et je pense que tu l'as eu il y a pas longtemps, mais moi je suis une grande grande fan de ce que fait Valentin Raffali. C'est franchement pour moi, il me bluffe quoi. C'est en plus d'être bluffant, c'est une grosse source d'inspiration, je pense, pour beaucoup de cuisiniers. Pour moi, il a un truc qui est très très vif, très sans frontières et très libre en fait dans sa cuisine. Et ça, je trouve ça assez inspirant. Donc je dirais, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que Valentin, pour moi, c'est moi, je pense qu'il va aller très très loin. Et en tout cas, c'est mérité parce que à chaque fois que je suis allée manger, c'est super émouvant. Et puis en plus, il met vraiment ses tripes quoi dans sa cuisine. Il met tout son cœur et ça, c'est quelque chose qui est très inspirant pour moi. Voilà.
Un nouveau compte Instagram que tu veux nous faire découvrir?
Alors, c'est un compte un peu improbable qui s'appelle A Pretty Cool Hotel Tour. C'est improbable. C'est un couple d'Américains, en fait, qui font le tour de plein d'hôtels hyper kitsch ou motels aux États-Unis. Et des fois, je sais pas, ils dorment dans des grosses voitures à l'ancienne. Enfin, c'est que des hôtels improbables. C'est super kitsch. C'est tout rose. Je suis fan de ce compte. Voilà.
Parfait. T'as fait plusieurs résidences, Luma, effectivement, qui est une résidence assez longue, Ona au Mexique avant, avec ton petit bébé, jogging dont tu parlais. C'est un format, et tu disais que c'est un format qui te convient assez bien, toi qui te lasses rapidement.
Oui, c'est un format qui me convient assez bien parce que je pense que, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que j'ai énormément de curiosité. et que c'est super excitant pour moi d'arriver dans un nouveau lieu, de rencontrer des nouvelles personnes en cuisine qui viennent de milieux qui sont complètement différents des tiens, qui ont cuisiné avec des personnes complètement différentes de toi. Puis même, enfin, moi j'ai une sensation quand j'arrive dans un pays, c'est l'odeur. Je sais pas, chaque pays a son odeur pour moi, je trouve. Quand t'arrives dans un, tu sais, l'odeur de quand tu sors de l'aéroport, tu dis ah, c'est vrai, ça y est, j'ai changé d'air là. C'est fou en fait. Et ça j'adore cette sensation là. Et puis découvrir des nouveaux marchés, découvrir des nouveaux produits, découvrir des nouvelles techniques. Et je pense, ouais, je suis quelqu'un qui me lasse assez vite. Et enfin, du moins, j'ai quand même la curiosité de me dire que je vais apprendre à chaque expérience et à chaque résidence des gens, des lieux, des marchés, des endroits. Après, c'est sûr qu'en étant jeune maman, ça va être de moins en moins possible parce que on va avoir le truc de bon, va falloir qu'on se stabilise, mais en tout cas, tant que on a la chance de pouvoir le faire avec mon copain, on bouge beaucoup.
Toi, c'est un truc en tout cas dans lequel tu te sens à l'aise. Et est-ce que c'est vrai que c'est aussi pour les jeunes chefs, pour les chefs qui sortent des écoles aujourd'hui, un format qui existe à part entière, qui n'existait pas avant, une nouvelle façon de travailler aujourd'hui qui est complètement intégrée dans le paysage. Dans le paysage de la restauration.
Ouais, c'est complètement différent et c'est super encourageant aussi, je trouve, parce que je pense que ça colle pas à tout le monde, le format brigade très classique, un peu brigade à l'ancienne, avec tout ce que ça peut regrouper aussi, heures à rallonge, train-train. Je pense qu'on est des générations aussi, une génération qui aime le mouvement, qui se lasse aussi plus vite, c'est vrai, mais moi je l'avoue, hein, je me lasse des choses et je sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, ça fait un peu vieille mamie de dire ça, mais je pense qu'on est une génération qui se lasse, qui a besoin de mouvement, qui est tout le temps, enfin, continue aussi en train de, on se lasse vite des choses, on voit une chose, on l'apprécie et on passe à autre chose. Et je pense que c'est un format qui fonctionne aussi avec ça. Tu vois, je pense que ça va de pair en fait, ça va de pair avec ça et c'est super encourageant de se dire que, ok, on peut aussi faire de la cuisine sans forcément être dans ce qui se faisait avant, tu vois, hyper à l'ancienne et tout, et c'est top, ouais, pour cette nouvelle génération, et je m'inclus dedans, en fait, et je suis très contente de me dire que j'arrive à faire mon métier comme je l'entends.
Puis avec des moments aussi, des moments très intenses,
ouais,
et des moments un petit peu aussi de pause qui sont hyper bénéfiques, parce que c'est un rythme qui est difficile à tenir sur le long terme.
Enfin, ouais, c'est difficile à tenir sur le long terme. Après, c'est vrai que c'est un piège aussi parce que, enfin, des fois, moi, je m'entends, quand j'enchaîne, tu vois, j'accepte ce qu'on me propose parce que c'est cool et que je suis excitée. Et là, en fait, là, je sens que, là, stop, fin septembre, c'est un mois et demi où vraiment, je n'accepte rien. Je le sais, j'en ai besoin. Et ça peut être aussi le piège de ce format. Et je pense que je me suis aussi peut-être un peu laissée, un peu piégée, moi aussi, tu vois. Parce que c'est trop excitant d'accepter des choses et de bouger. Mais il faut savoir aussi dire, allez, maintenant, stop, il n'y a pas...
Petite pause
et on reprend.
En tout cas, petite pause entre les résidences.
Mais c'est vrai que, en effet, la résidence permet d'avoir des moments très, très intenses et des moments beaucoup plus calmes où tu peux aussi te recentrer. Donc, c'est ça, franchement, beaucoup, beaucoup d'atouts, en réalité. Ça a beaucoup d'atouts, ce format-là.
Et Arles, tu sens une énergie particulière. J'ai l'impression que, tu vois, il y a aussi une espèce d'émulation, comme il y a eu, peut-être pas comme il y a eu à Marseille, mais en tout cas, là, il se passe un truc quand même.
Ouais, de plus en plus. Arles, franchement, moi, je pense que Arles is the new Marseille, quoi, ou si c'est pas déjà le cas, en vrai. C'est assez dingue, l'arrivée de chef, bon, Armand à la Chassagnette, qui est là quand même depuis bon nombre d'années et qui a déjà installé un truc très, très fort dans la région. Et puis Céline maintenant qui est là, Guillaume avec Maud, Guillaume de l'hôtel présent avec Maud, qui ramène aussi quelque chose. Et puis j'ai le sentiment, il y a aussi le relais du Castellet, il y a Messa. Je pense qu'on mange de mieux en mieux à Arles. Et je pense qu'il se passe un truc parce que la région, elle est super propice aussi, tu vois, en termes de produits et tout. On est super gâtés, quoi. On a des producteurs de légumes assez dingues. On est très très près aussi de la mer, donc on a des très beaux arrivages de poissons. Je pense que la région est propice au fait d'avoir de plus en plus de beaux établissements. Et après, je pense vraiment un dernier moment que la, les rencontres de la photographie et tout le côté en fait culturel de la ville rapporte vraiment quelque chose de très très fort. Ouais. Enfin, ce qui est très agréable à Arles quand même, faut le dire, c'est tout le côté culturel. C'est fou dans une ville
de cette taille.
Ouais, de cette taille là, il se passe autant de choses et c'est très agréable.
Et justement, le fait d'être chef ici à Louma, est-ce que ça t'inspire ? Enfin, t'es quand même dans un lieu incroyable, une tour designée par un architecte de renom. Voilà, avec des expos photos. En ce moment, il y a deux expos. Enfin, il y en a plus d'ailleurs, mais j'ai vu celle de Diane Arbus et de Daniel Varda. Enfin, c'est incroyable.
C'est assez incroyable. Enfin,
c'est vrai. Est-ce que ça te parle,
ça me parle dans le sens où ce que je trouve très très agréable à Luma et c'est qu'ils mettent en tout cas les cuisiniers ils les placent en fait au même titre que les artistes qui vont exposer. Et c'est déjà, ça donne de la confiance, je pense. Et c'est très agréable parce que même moi je me dis bon, il y a quand même c'est pour eux en fait un médium artistique aussi bien voilà que la photographie ou que la sculpture, j'en sais rien. Et ça, c'est très agréable en fait pour moi, et c'est vrai que ça donne envie en tout cas de voilà, j'arrive tous les matins dans cette tour, je me lève, j'arrive dans une tour dans un musée endormi, dans une fondation endormie, et c'est vrai que je rentre dans mes cuisines en me disant oui, il faut quand même assurer quoi, parce que t'es quand même dans un endroit où il y a de très belles choses à voir, donc autant avoir de très belles choses aussi à manger. C'est sûr que c'est très, et puis c'est trop chouette de se dire que des fois en sortant de faire une expo, c'est quand même un lieu de travail qui est super paisible. Donc je le ressens moins quand je suis au sous-sol dans la cuisine, c'est vrai, mais de temps en temps un petit tour de toboggan à Luma c'est trop cool quoi.
Est-ce que tu te sens un rôle en étant une jeune femme chef? Est-ce que tu vois, t'es forcément un modèle, je pense t'as été aussi médiatisée, est-ce que tu vois, tu sens une responsabilité en tout cas vis-à-vis de ça?
Je pense que, je sais pas si c'est une responsabilité, en tout cas un engagement, je pense de ma part, que j'essaie de tenir vis-à-vis de, déjà de mes équipes, tous les jours, avec eux. Ouais, je crois que c'est un engagement. Après, je pense aussi, la chose qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est le fait aussi d'être devenue mère. C'est pour moi en tout cas, s'il y a des jeunes femmes qui sont dans la cuisine et qui se disent que c'est impossible, parce que moi pendant de très nombreuses années je me suis dit que ça allait être impossible, alors que c'était quelque chose vraiment qui me portait depuis jeune, le fait de d'être mère, tu vois. Et en fait c'est possible différemment, parce que en effet j'ai la chance de pas pouvoir travailler, de pas devoir travailler le soir. C'est possible, c'est fatigant, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande aussi d'avoir un partenaire ou une partenaire qui soutient tout ça, qui porte tout ça aussi, parce que ici j'ai beaucoup d'engagement, mais je me dois aussi d'avoir aussi beaucoup d'engagement chez moi, parce que ma fille a demandé au final, et que je lui dois aussi tout ça, et que voilà. Mais en tout cas par rapport à ce truc de modèle, tu disais, je pense pas du tout être un modèle de management ou quoi que ce soit, parce que il y a plein de choses que je fais très mal. En tout cas, j'essaie de porter au mieux mes équipes en cuisine, ça c'est sûr. Mais en tout cas, aux jeunes femmes qui nous écoutent, c'est j'ai envie de dire en tout cas que c'est possible. C'est possible de mener les deux troncs, c'est pas facile, mais c'est possible, et quelle satisfaction. C'est sûr que j'ai, en tout cas sur cette partie-là, j'ai quand même de la fierté de me dire ok, j'arrive à faire rouler les deux, et ma fille est en pleine santé, elle est géniale, elle nous fait rire, tout va bien, tout roule quoi avec elle. Donc c'est positif.
Et j'ai une petite question que j'aime bien poser au chef que je rencontre, c'est quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
Je pense chez Yima. Je pense chez Yima, la première fois que j'ai annoncé un bon. C'est les petites excitations de dire ça passe, découvert, machin. Ça, c'est marrant. Après, ouais, je pense, oui. Après, je sais pas, j'aime bien dire que je suis cuisinière, quoi. Je sais pas. Oui, ben après, oui. Oui, je sais pas.
Cuisinière de l'action, comme tu disais.
Cuisinière aussi. De l'action, ouais, clairement.
Enfin,
oui, clairement.
T'es cuisinière avant d'être chef.
Ouais, ah oui, complètement. Après, ben, c'est sûr qu'il faut une organisation, et que, Et qu'à un moment, c'est sûr qu'il faut que quelqu'un prenne le lead pour que les choses, elles tournent aussi. Et ça, on peut pas...
C'est ce que j'allais dire, il faut un chef dans la cuisine.
Il faut quand même un chef dans la cuisine parce que il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Et puis, on a vraiment le rush, quoi. C'est vrai, il y a d'autres métiers, ils ont des rendus, mais ils ont pas quand ils ont des deadlines, ils ont pas une deadline d'une heure et demie, j'imagine. Bon, des fois, oui. Mais bon, nous, on a un vrai coup de feu.
Chaque jour.
Voilà. On a un coup de feu, un vrai coup de feu, qui est super excitant, mais qui, en même temps, demande de l'organisation. Et je pense qu'il dit organisation, dit aussi à un moment le lead, de que quelqu'un prenne le lead. Donc forcément, je le prends naturellement parce que j'ai été contactée pour faire ça. Mais en même temps, ouais, je pense la première fois que j'ai lu un bon, je me suis dit ah ouais, pas mal quand même.
Après la sortie de ton livre à l'automne dernier, ta résidence à Arles qui va se terminer fin septembre. Quelle va être la prochaine étape? Le repos?
Ouais, le repos, je dirais. C'est cool. C'est bien de finir là-dessus, ouais. Je pense du repos pour bien recharger les batteries. Et je pense que le repos est nécessaire dans le processus de création. Je pense que c'est indispensable en fait. Et puis je le vois, tu vois, quand je suis dans des moments où je travaille beaucoup, j'ai tendance à être moins créative et puis perdre un peu de confiance aussi. Et je crois que le repos, j'en ai besoin. Et le voyage aussi, là, j'en ai besoin. Et je pense qu'on va bouger un peu. Et puis après, on verra. On verra, ce sera peut-être un café-boulangerie. Ce sera peut-être une autre résidence. Des fois, je me dis que j'ai un rêve d'ouvrir une pizzeria aussi parce que j'adore le travail de la pâte et la pizza cuisinée, c'est quand même génial. Donc voilà, plein de projets un peu différents et on verra.
Et j'ai dernière petite tradition, c'est je demande une recette à la fin. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner de bon pour cuisiner comme toi? Quelle recette tu peux nous donner
Qu'est-ce qu'on peut cuisiner de bon on peut cuisiner de bon. C'est dur comme question. Moi, j'adore la friture. J'adore la friture aussi. Les beignets. Les beignets que t'as mangés à midi.
Là.
En vrai, c'est pas.
C'est qu'on a adoré.
Ça, c'est vrai, moi j'adore, c'est mon.
Trop bon.
C'est mon crush, ouais. En ce moment, à Lima, il y a des petits beignets avec un cœur coulant au gouda. La recette est dans le livre. Enfin, la recette des beignets dans le livre. Mais ouais, un petit beignet salé, chaud, ça fait toujours plaisir en septembre.
Tu fais comment? Du coup, tu fais ta pâte?
Je fais une pâte à beignet. Ouais. C'est une pâte, en fait, ça s'appelle des boules de Berlin. C'est vraiment une pâte à beignet classique. Je la désucre juste un peu. Et en fait, je mets le fromage au milieu. Je boule le tout. J'enferme, en fait, le fromage dans cette petite boule de pâte. Et je la laisse un petit peu pousser. Je fais frire le tout. Et par-dessus, on met une harissa à l'amande un peu adoucie. Et un espèce d'aioli un peu safrané, très aillé.
C'était vraiment hyper bon. Et on a adoré.
Trop cool. Et bien, merci beaucoup.
Merci, Ella.
Merci à toi, Julie. C'était trop chouette d'avoir cette discussion. Merci.
Vous venez d'écouter l'interview d'Ella Aflalo. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, rendez-vous jusqu'à fin septembre au Drum Café, le restaurant de la Fondation Luma à Arles. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment la suivre sur Instagram sur son compte Ella Flalo. Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site agence-larelève.com et suivre.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Livre à poil podcast et agence_larelève sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'À poil.